Salut Hugues.
Salut Marc.
J'ai du mal à dire salut Hugues. Je crois que ça s'appelle une diphtongue. Non, c'est pas une diphtongue, c'est comment ça s'appelle. Enfin bref, c'est le choc des voyelles, tu vois. Salut Hugues, il faudrait que je trouve autre chose. Hugues Mouret, directeur scientifique d'Arthropologia, c'est une belle asso qui raconte le vivant, qui le compte, etc., qui fait des inventaires, etc. On salue les copains d'Arthropologia au passage. Dans cet épisode, Hugues, on va continuer à se faire mal, c'est nécessaire. On va parler de l'effondrement, mais on va surtout le quantifier. On va pas pleurnicher, on va juste donner une idée de ce qui se passe. Et peut-être que le premier chiffre que tu pourrais nous détailler, c'est que l'actuelle vitesse de disparition des espèces est au moins mille fois, j'ai lu parfois 10 000
ouais,
fois, au moins 1000 fois plus rapide que la normale. Est-ce que tu peux nous expliquer ça?
Oui, c'est ce qu'on estime, 1000 à 10 000 fois la vitesse normale. On perd probablement plus de 26 000 espèces chaque année sur la Terre. Donc ça peut paraître complètement affolant.
Sur 2 millions.
Ça l'est, mais sur 2 millions connus, mais sur certainement beaucoup plus, puisqu'il y a beaucoup d'espèces et des estimations qu'on perd sans les avoir découvertes, évidemment. Et 26 000 espèces chaque année, bah avant qu'on s'en rende compte, que tout un chacun s'en rende compte, il va se passer des années. Sauf que les services associés, les fonctionnalités associées, sont elles en train de décliner également. Et bah, si je me réfère à une publication de 2020 dans Nature, on se rend compte qu'en fait, à la vitesse de dégradation actuelle, hein, parce que si on continue les modalités sociétales actuellement, business as usual, on se rend compte qu'en 2100, en fait, la vie telle qu'on la connaît s'arrête sur Terre. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, c'est-à-dire qu'il y en a pour quelques dizaines d'années encore à voir les choses se dégrader avant que tout s'arrête, encore une fois je précise, la vie de la manière dont on l'a décrit. Parce qu'évidemment il y a beaucoup de choses qui sont protégées et qui vivent loin de nous.
Alors toi tu fais partie des gens qui disent business as usual, mais qui disent nature en parlant de la célèbre revue, tu vas pas nous dire Nature par exemple.
Nature, j'aurais pu dire Nature, tout à fait. Alors on a... Quand même, il faut dire, on commence à augmenter les efforts de conservation hein, en ayant des petites zones protégées qu'on augmente de façon plus ou moins ambitieuse, alors qu'il faudrait vraiment tirer le collier pour laisser des espaces de vie de taille conséquente et pas des mouchoirs de poche ou des pots de chagrin. Et à ça devraient largement s'ajouter d'autres efforts, notamment sur la production et la consommation durable, qui ne sont pas du tout au goût du jour. Avec ces trois efforts combinés, on peut espérer qu'en 2100, on retrouve le niveau de 2008, ce qui n'est pas du tout une évidence. Et vous comprenez bien qu'en 2008, on était déjà dans un niveau bien, bien dégradé. Donc on va laisser à nos petits-enfants une terre en piteux état, quoi qu'il arrive. Donc il est temps de, effectivement, faire des efforts drastiques.
Alors, tu nous parles de nos amis de l'UICN. Alors, on ne va pas noyer celles et ceux qui nous écoutent sous un flot de chiffres, mais on va quand même en donner quelques-uns. Selon l'UICN, on va passer en revue les différents groupes d'animaux. Donne-nous quelques petits pourcentages pour qu'on ait une idée.
Oui, ça, chacun peut les trouver. Hein. L'UICN, c'est l'Union Internationale de Conservation de la Nature. Et on se rend compte qu'il y a un quart des mammifères qui est menacé d'extinction. 14% des oiseaux, 20% des reptiles, 40% des amphibiens. Voilà, c'est des chiffres qui sont terribles, terribles et qui sont malheureusement connus. Et quand on regarde la France, c'est guère mieux. Parce que les chiffres des listes rouges, donc ce qui évalue le niveau de vulnérabilité des espèces en France, on se rend compte que c'est 23% des amphibiens, par exemple, hein, ou 32% des oiseaux nicheurs, ou 14% des mammifères, 24% des reptiles. Voilà, c'est assez terrible les niveaux de dégradation du vivant à l'international ou en France. Et même si on s'attelle à un groupe extrêmement diversifié, hein, dont on parle depuis quelques temps, qui est les insectes et qui sont assez peu évalués en termes de disparition, eh bien, vous avez probablement entendu parler de cette étude parue dans PLOS ONE en 2017 qui évoque une perte de la biomasse des insectes volants de près de 80% en 30 ans. Donc très alarmant, sauf que la biomasse uniquement, c'est pas suffisant pour qualifier correctement les pertes de diversité. Et il y a une autre étude qui a été parue dans Nature en 2019 et qui a été sur 10 ans, entre 2008 et 2017, qui a suivi l'évolution de 290 sites, 150 prairies et 140 forêts. Et on s'est rendu compte que sur 10 ans seulement, on avait une perte de 67% de la biomasse, c'est-à-dire les deux tiers du poids des insectes a disparu en seulement 10 ans. Mais ce qui est encore plus alarmant, c'est de se rendre compte que 78% de l'abondance, c'est-à-dire 8 insectes sur 10, il manque 8 insectes sur 10 par rapport à il y a 10 ans. Et un tiers des espèces a disparu. Donc voilà, c'est des chiffres qui sont juste totalement alarmants, puisqu'évidemment, on a évoqué dans l'épisode précédent les fonctionnalités, les services écosystémiques rendus par cette nature, et notamment par l'abondance et la diversité des insectes. Et c'est tout un tas de services et de fonctionnalités qu'on va perdre, sans lesquelles la nature, telle qu'on la connaît, ne peut pas fonctionner. Donc les alertes ont lieu à l'échelle internationale. Ça, évidemment, vous en avez tous entendu parler, l'IPBES, le GIEC... Et donc, en conclusion, cette étude, elle est assez terrible parce qu'on se rend compte qu'en seulement 10 ans, on a perdu les deux tiers de la biomasse, 8 individus sur 10, et le tiers des espèces. Et ça, malheureusement, c'est probablement extrapolable à une bonne partie de l'Europe occidentale.
Donc voilà, on comprend que ce taux d'extinction des espèces, il est sans précédent et il va en s'accélérant. On comprend que la réponse actuelle est totalement insuffisante. On comprend que des énormes changements sont nécessaires pour restaurer et protéger la nature. On donnait l'exemple des jardins, c'est un des moyens. Et là, on se fait mal, on a mal au cœur, on explique ce qui ne va pas et comment ça ne va pas. Mais dans les épisodes précédents avec toi, on va voir ce qu'on peut faire et surtout ce que peut faire chacun. Parce qu'il faut que chacun s'empare du truc, tu vois. Faut, évidemment, enfin, j'enfonce une porte ouverte, mais il ne faut surtout pas attendre que Macron ou je ne sais qui dise ah bah tiens, on va peut-être faire ci, on va peut-être faire ça, sachant qu'en fait,
non, mais il le faudra quand même. C'est-à-dire qu'il faut une réponse individuelle, il faut une réponse collective, il faut une réponse des entreprises, il faut une réponse de l'État. On ne peut pas attendre les uns des autres, chacun doit se mettre en route, mais on ne pourra pas fonctionner sans une prise de mesures drastiques aussi au niveau de l'État.
Et je vois aussi une phrase dont chacun a sans doute l'intuition, c'est « les intérêts particuliers doivent être dépassés pour le bien de tous », et c'est justement ce qui n'est pas fait. Quand on voit ce que font par exemple les chasseurs, je ne vais pas trop taper sur les chasseurs encore dans cet épisode, mais surtout l'accaparement de l'eau par exemple, par certains paysans et pas par d'autres.
Alors par certains méga-agriculteurs, c'est malheureusement pas des paysans.
Oui, c'est vrai, tu viens de me rectifier, mais exact. Ok.
Et cette phrase, les intérêts particuliers doivent être dépassés pour le bien de tous, c'est une phrase qui est issue d'un rapport de l'IPBES, la plateforme internationale sur la biodiversité et les services écosystémiques. Et donc ce sont des scientifiques qui se sont réunis et qui interpellent les États sur la nécessité et l'urgence de changer radicalement nos modalités d'interaction avec la nature.
Tout le monde connaît le GIEC, je rappelle juste au passage que l'IPBES c'est l'équivalent du GIEC pour la biodive.
Voilà. Alors je rappelle au passage que le GIEC, c'est la France qui l'appelle comme ça et qu'on est le seul pays à l'appeler comme ça et que ça s'appelle l'IPCC au niveau international.
Voilà, qui ressemble plus à l'IPBES.
Tout à fait.
Ouais, très juste. Hugues, on ne le fera jamais assez. On va rappeler les 5 grandes causes de l'effondrement de la biodiversité. Je veux bien que tu nous les détailles.
Oui, bah c'est important hein, qu'on mette le nez et les mains dans le cambouis pour se rendre compte vraiment d'où viennent les problèmes et comment est-ce qu'on peut les inverser. Et si on liste les principales causes de disparition du vivant, d'effondrement de la biodiversité, sans forcément les hiérarchiser, d'autant plus qu'elles se stimulent et qu'elles s'entraînent les unes les autres, hein, qu'elles s'amplifient les unes les autres, on a la pollution tout azimut de l'ensemble des habitats sur l'ensemble de la planète, même à des endroits bien loin de toute activité humaine, au pôle Nord ou en haut des glaciers, au fin fond des mers, on trouve des traces de pollution. Et ça, c'est les pollutions industrielles, agricoles, domestiques, routières. Et à ça s'ajoute la pollution lumineuse. Hein.
Et je dirais aussi la pollution sonore.
Et la pollution sonore, et olfactive, il y en a d'autres hein, qui viennent s'ajouter et dont on n'a pas forcément conscience de l'impact, mais qui jouent probablement des rôles de perturbation dans la vie sauvage. À côté de ça, s'ajoute la destruction et le morcellement des habitats. Hein. C'est la même chose. On détruit l'habitat sur lequel les organismes vivent, c'est terminé. Et on morcelle les habitats. Bah, c'est un petit peu dilué dans le temps, mais avec les mêmes conséquences. Et la troisième cause que je voulais évoquer, bah, il est important de dire qu'en fait, c'est une conséquence des deux premières. Cette troisième cause, c'est les changements climatiques, les changements globaux induits, hein, la montée de température ou les grands écarts de température qu'il peut avoir sur l'année, les concentrations des pluies, bref, tous ces changements qu'on est en train de vivre et qui sont finalement des changements qu'on ressent au jour le jour. Et bien, c'est important de se rendre compte que la Terre brûle, s'embrase, parce que les milieux sont pollués et parce que les habitats naturels sont détruits. Donc c'est une conséquence des deux premières causes qui devient une nouvelle cause et qui amplifie encore les phénomènes de disparition du vivant. Et à ça, évidemment, s'ajoute la surexploitation des ressources, la surchasse, la surpêche, les légendes aussi, hein, les exterminations systématiques, les mythes, les croyances, où on a parfois par habitude des gestes, des activités ou des modalités de gestion qui sont extrêmement perturbantes pour la vie sauvage ou extrêmement destructrices. Et évidemment, l'introduction des espèces invasives et envahissantes est un nouveau problème qui s'ajoute, et là aussi qui est exactement et strictement lié à nos modalités de commerce insensées, incontrôlées, où on transite des produits d'un bout à l'autre de la planète en quelques jours à quelques semaines, avec tous les organismes susceptibles de se balader dedans, et donc une banalisation du vivant, avec une pression de certains organismes qui ont un fort pouvoir de pénétration des milieux.
Hugues, on va donner quelques chiffres pour que la prise de conscience soit bien claire et bien étayée par des chiffres. Donne-nous quelques exemples, par exemple en matière de pollution.
Alors là, c'est pas compliqué, hein. Il suffit de se tourner vers les ministères, puisqu'il y a une obligation de communiquer sur ces chiffres-là. Et le ministère de l'écologie, en 2021, annonce que la France consomme encore 43 000 tonnes de pesticides, ce qui en fait le premier ou le deuxième consommateur européen. par an, tout à fait par an, avec une légère augmentation ces dernières années, ce qui est assez terrible. Et du reste, si on regarde ce qui était annoncé en 2007, donc il y a 16 ans maintenant, par l'IFEN, l'Institut français de l'environnement, à l'époque déjà, il y a 16 ans, 91% des eaux de surface et 59% des nappes phréatiques contenaient des traces de pesticides et de métaux lourds. Et donc ce qui est terrible, c'est que suite au Grenelle de l'environnement en 2007, il a été mis en place un plan qui s'est appelé Ecophyto 2018, dont l'objectif était de réduire les pesticides de 50% entre 2008 et 2018. Or, quand on va sur le site du ministère de l'Agriculture, on se rend compte que ce n'est pas du tout ça qui a été fait. Alors, pas en termes de produits épandus, parce qu'on ne sait pas la quantité de produits déversés, mais on connaît la quantité de produits achetés. Et on se rend compte qu'entre 2008 et 2018, il y a eu une augmentation de 22%. Et que l'année suivante, il y a encore eu une augmentation de 24%, probablement parce que des produits allaient être interdits et que des réserves ont été faites. Et donc, c'est terrible, c'est qu'on continue, au niveau de l'État, à communiquer sur les objectifs de ce plan Ecophyto 2018, alors que les résultats ne sont pas du tout à la hauteur et qu'on est loin de pouvoir aller et atteindre les objectifs qui ont été définis pour 2025, c'est-à-dire réduire de 50%.
Alors, on vient de parler de la pollution chimique. Hugues, donne-nous une idée de l'impact de la pollution lumineuse. C'est vrai que c'est joli, la Terre vue du ciel, là, toutes ces villes éclairées et tout ça, mais en fait, ça tue beaucoup.
Et oui, c'est joli, il faut qu'on distingue l'esthétique humaine de la réalité de la biologie des organismes. C'est vrai que ça peut paraître joli, mais on a transformé la nuit en une journée éclairée. Et évidemment, on doit se rappeler que la seule lumière qui est visible dans la nuit, et c'est normalement la seule lumière la plus puissante, c'est la Lune. Et que quand on allume un lampadaire, il est plus puissant que la Lune en termes de lumière émise. Et qu'on a, rien qu'en France, 9 millions de points lumineux publics qui sont éclairés régulièrement. Ce n'est pas le pays qui éclaire le plus, mais la vie qui s'est habituée à l'alternance jour-nuit, parce que je vais vous dire un secret, la Terre tourne depuis 4 milliards d'années qu'elle a été créée, et donc il y a une alternance systématique. Et donc l'ensemble des organismes s'est habitué à cette phase de lumière et cette phase de nuit. Sauf les organismes qui vivent à l'intérieur du sol, évidemment, eux sont dépigmentés et ne vivent pas à la lumière. Donc quand on éclaire la nuit, ça pose un vrai problème pour pas mal d'organismes. Et d'ailleurs, il est important de constater que la majorité des animaux est nocturne. C'est-à-dire 28% seulement des vertébrés vivent la nuit, mais 64% des invertébrés. Et comme on l'a vu sur la dernière émission, les invertébrés, les petites bêtes, sont beaucoup plus nombreuses en diversité d'espèces. Et donc, d'un point de vue biologique, vis-à-vis des animaux, il faut comprendre que c'est plus embêtant d'allumer la nuit que d'éteindre la journée. Et tout le monde peut comprendre le problème que ça poserait à nous, animaux diurnes, si on éteignait la journée.
Ouais, c'est bien clair. Et là, dans des slides qui nous servent de base à cette émission, il y a un document très parlant que je veux bien que tu remettes, où on voit la barrière que constitue la lumière, qui peut être une barrière par répulsion ou par absorption. Je veux bien que tu nous expliques ça.
Il y a deux phénomènes globaux. C'est ce qu'on appelle le phototactisme, qui vont être, les animaux vont soit être repoussés par les barrières lumineuses et donc les éviter. Et ça, c'est le cas.
Et donc ça fragmente davantage l'habitat.
Ça fait une fragmentation. S'il n'y a pas de traversement de la zone lumineuse, ça veut dire que inévitablement, les deux zones ne pourront plus être reliées par ces animaux. Et c'est les chauves-souris, les amphibiens, certains mammifères nocturnes, comme les lynx par exemple. Alors qu'à l'inverse, il y a un certain nombre d'insectes qui vont être perturbés par la présence de lumière et pas vraiment être attirés. Ils ne sont pas vraiment attirés. Normalement, ils utilisent la lune pour se déplacer et ils gardent un angle constant avec la lune, ce qui leur permet d'avancer en ligne droite en suivant la courbure de la Terre. Mais si la lune, on la pose sur la Terre, et bien à ce moment-là, en gardant cet angle constant, les insectes font un cercle concentrique qui finit par les faire tomber sur la lumière. Tout le monde connaît l'image d'une bougie posée au milieu d'une pièce noire, vous lâchez un papillon, il ne va pas en ligne droite dessus, il fait un cercle concentrique et il finit sur la lumière. Donc une fois qu'ils sont accrochés au lampadaire, ils finissent par tourner toute la nuit, par mourir d'épuisement et puis par subir évidemment la pression des prédateurs, puisqu'il y en a un certain nombre. Certaines chauves-souris fuient les lumières, mais certaines petites chauves-souris comme les pipistrelles se sont tout à fait habituées et viennent voler aux alentours des lampadaires.
Donc là, pour le coup, la solution paraît simple. Il faut qu'on arrête la gabegie et réduire l'éclairage partout où c'est possible. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'éclairer les monuments? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'éclairer tout, partout, tout le temps? Évidemment que non.
Tout à fait. Et pour ça, je vous invite à vous référer aux chiffres donnés par la Cour des comptes qui nous indique que 70% de la dépense énergétique liée à l'éclairage dans le tertiaire a lieu de jour. Alors que le jour, il y a de la lumière, et que là aussi, c'est une question de requalification de nos constructions. On peut facilement, aujourd'hui, techniquement, même dans une pièce aveugle, faire rentrer la lumière solaire avec des puits canadiens, des puits qui vont transporter la lumière à l'aide de miroirs, et ne pas utiliser systématiquement la lumière. Et là aussi, on a beaucoup, beaucoup trop de lumière qui est éclairée en permanence, que ce soit à l'intérieur ou que ce soit sur les bâtiments extérieurs, où on a une marge de 70% d'économie à produire, encore une fois, selon les chiffres de la Cour des comptes.
Hugues, on est proche de la fin de cet épisode où on se faisait mal, où on rappelait les racines du mal finalement. Et donc tu as achevé de nous livrer tes dernières cartouches. Là, je vois que depuis 2010, il y a 2 millions de kilomètres de haies, de bocages qui ont été exterminés. Et c'était pourtant l'harmonie, ce qui maintenait cette biodiversité entre le monde paysan et nous. Voilà, il y a 2 millions de kilomètres de haies qui ont été coupés. Donc c'est la fin du fameux bocage. Hein. C'est maintenant, les champs, c'est devenu des espèces d'immenses déserts totalement uniformes où il y a plus et qui étaient pourtant les refuges de la vie finalement. Donc ça, 2 millions moins. Quels
Alors
sont les
juste
autres 2 chiffres ?
Millions, je voulais juste préciser, parce que tout le monde n'en a pas forcément conscience, que ça représente 50 fois le tour de la Terre à l'équateur. 2 millions de kilomètres de haies. Et que c'est 75% des haies en France qui ont été détruites. À côté de ça, on a les deux tiers des zones humides qui ont été détruites en France. Et c'est 85% au niveau planétaire. Et on continue à détruire ou amender, engraisser des prairies naturelles pour en faire des prés d'embouche, hein, et donc diminuer la diversité floristique pour augmenter la quantité de matière produite, pas forcément de façon très très intéressante. Et on se rend compte, là aussi c'est des chiffres très récents, hein, qui sont donnés par le ministère de l'écologie, qu'on est encore à une vitesse de 35 000 hectares de terres artificialisées chaque année, ce qui représente, hein, en France métropolitaine 9,5 mètres carrés par seconde. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est terrible, ça veut dire un terrain de foot toutes les 5 minutes qui est artificialisé, quoi. Ouais. On transforme de la vie sauvage en un milieu totalement artificiel.
Ouais. Je vais donner un dernier chiffre qui est très clair, c'est l'équivalent d'un département tous les 7 ans.
C'est ça, on a souvent eu l'habitude de faire ce comparatif, notamment en prenant la Haute-Savoie, qui est un département pas spécialement grand, pas immense et pas petit non plus, mais ça correspond globalement à un département tous les 7 à 10 ans. Ouais.
Hugues, au son du babil, du babillage des hirondelles rustiques qui passent au-dessus de nous, évidemment, au loin, il y a encore un mec qui tronçonne. Et puis, on a vu tout à l'heure une femelle fondatrice de frelons qui cherchait un petit trou dans ton mur pour faire son lit. Et tu lui disais gentiment, bah non, non, te mets pas là.
Pas juste sur la terrasse, puisque l'été, en juillet-août, les frelons d'Europe volent la nuit. Et donc, à chaque fois qu'on mange le soir, il y a une vingtaine, une trentaine de frelons qui tournent. Donc nous, ça nous dérange pas, on a tout à fait l'habitude. Mais c'est vrai que quand il y a des copains qui viennent manger, ils sont un peu perturbés d'avoir des grosses bestioles qui leur volent autour.
Oui. Tiens, toi et moi qui partageons cette culture, on a le même âge, toi et moi, culture Goldorak, Club Dorothée. Tu te souviens, à un moment donné, il y avait un dessin animé sur Tarzan, et je ne sais plus qui lui demandait à Tarzan, dans le dessin animé, quelle est la créature de la jungle que tu crains le plus ? Et je me souviendrai toujours de la réponse de Tarzan, qui, alors il donnait des noms, tu sais, il y a Simba le lion, Tantor l'éléphant, ouais. Je ne me souviens plus comment s'appelaient les autres animaux, donc je ne me souviens plus du nom du frelon, mais Tarzan répond. Eh bien, celui que je crains le plus, c'est, et là il dit le nom que j'ai oublié, c'est, on va dire, Victor le frelon. Parce que, voilà, c'est le seul animal qui, quand il est énervé, rien ne lui résiste. Même Tantor l'éléphant, même Simba le lion, fuit quand Robert le frelon est en colère. Ouais. Tu me regardes en souriant, mais bah, c'est vraiment un truc qui m'a marqué.
Parce que les frelons, c'est pas très agressif. Il y a des guêpes qui sont plus agressives. Et pour moi, je pense que les fourmis pose beaucoup plus de problèmes parce que beaucoup plus nombreuses et beaucoup plus agressives aux abords du nid, et notamment certaines fourmis qui ont des nids même nomades, hein, comme les fourmis légionnaires, où là vraiment je trouve que c'est encore un autre niveau que les guêpes.
Ouais. Hugues, on va reprendre le fil et on va surtout finir notre épisode. Quels sont les habitats qui sont détruits et qu'est-ce qu'on en fait ? Pourquoi ? Pour quels motifs ils sont détruits ?
Alors, une des grandes causes de destruction à grande échelle des habitats, c'est l'agriculture. Et là, je tiens tout de suite à séparer le terme d'agriculture du terme de paysan. Je ne m'attaque pas aux personnes, mais je m'attaque aux modalités sociétales qui ont donné les clés, les moyens, et très peu de moyens, très souvent, parce qu'il y en a beaucoup qui travaillent pour pas grand-chose, sinon rien, de produire cette nourriture de qualité qui s'amoindrit au fur et à mesure des temps par uniformisation, par clonage, par destruction des habitats naturels, par destruction de la réponse naturelle au profit des réponses mécaniques et chimiques. Bref, toute cette industrialisation de l'agriculture qu'on a pu vivre, où on a aujourd'hui des centaines d'hectares, des milliers d'hectares sur lesquels il n'y a pas une seule haie, alors que ce sont les espaces de refuge, ce sont les espaces de transit, ce sont les espaces de nidification et de nourriture complémentaire de toute cette faune qui devrait avoir dans les champs et qui devrait remplir toutes ces fonctionnalités. Donc c'est assez terrible, ces choses-là. Et si on regarde sur le site, là moi j'ai regardé sur le site de l'ADREAL, donc le relais du ministère de l'écologie au niveau régional, l'ADREAL Auvergne-Rhône-Alpes, on se rend compte qu'en fait, si on regarde quelles zones ont été artificialisées entre 2006 et 2012, eh bien, ce sont à 88% des zones agricoles, des terres arables et des prairies et des surfaces toujours en herbe. Donc ce sont des espaces extrêmement riches en termes de diversité qui sont détruits. Et si on regarde sur la page d'à côté, qu'est-ce qu'on en fait de ces espaces-là, eh bien, à 41%, on en fait des mines et des décharges. Mais on en fait à 15%, on en fait des zones urbanisées, et à 15%, on en fait des zones industrielles et des zones commerciales ou des réseaux de communication. Donc en fait, les espaces les plus riches, qui sont notamment les espaces les plus productifs en termes d'agriculture, et qui sont les espaces autour des villes, sont les espaces les plus rapidement détruits, les plus rapidement colonisés par l'activité et l'urbanisation de l'humanité.
Alors là, tu m'as demandé de te demander, c'est quelque chose d'assez poétique, mais cher Hugues, il reste quand même des fleurs un peu partout.
Et oui, il reste des fleurs, et même on en met, et on en met partout. Comme dirait Merlin dans notre petite web-série La Pause Biodive, c'est pas si simple, quelle fleur, quel arbre, quelle herbe. C'est de ça dont on parle, c'est de la qualité, qu'est-ce qu'on met? Parce que la nature, elle remplit des fonctions esthétiques. Pour nous, on trouve ça joli, on trouve ça agréable. Mais le décorum, l'esthétique, n'est pas la seule fonctionnalité que remplissent les fleurs. Les herbes, les plantes en général, elles vont fournir des espaces de nourriture, elles vont fournir des espaces de refuge, elles vont fournir des espaces de reproduction, des espaces de nidification pour la faune sauvage environnante. Or, on a eu tendance à importer des espèces exotiques parce que plus flamboyantes, plus grosses, plus visibles, plus colorées, plus tout ce qu'on voulait, en tout cas pas du tout indigènes. Donc ça avait le mérite d'être joli pour certains. Enfin après, peu importe, je ne suis pas du tout en train de discuter des goûts et des couleurs. Mais en tout cas, ces espèces transportées de l'autre bout de la planète n'ont pas subi l'évolution plurimillénaire avec les insectes et donc cette adaptation, cette coévolution. Et quand on transporte une plante à plusieurs milliers de kilomètres de son biotope d'origine, et ben souvent les insectes ne sont pas adaptés à l'accès aux pièces florales, au nectar, au pollen ou à la qualité qui est produite.
Voilà, je vois une photo où il y a le fameux panneau qu'il y a dans certaines villes, ville fleurie. Et toi, tu mets à côté très cher, importante consommation en eau, très chronophage. Enfin, c'est vrai, c'est du temps, de l'énergie, de l'argent perdu.
Complètement. Alors, heureusement, ce label ville fleurie, ville et village fleurie, hein, ce label qualité de vie est en train d'évoluer avec une augmentation de la part du naturel, du spontané, du sauvage, au détriment du simplement, entre guillemets, esthétique. Et c'est très bien parce qu'on sort des grands massifs de roses, de pétunias et de pélargoniums pour des espaces qui sont plus vivants et qui sont plus fonctionnels. Malheureusement, les industriels qui ont toujours des bonnes idées et des bonnes choses à nous vendre nous ont inventé les prairies mellifères, les prairies apicoles, les jachères apicoles, bref, tous ces mélanges de fleurs qui sont vendus dans les jardineries et qui sont essentiellement des plantes exotiques ou des plantes modifiées. Alors si je prends l'exemple des modifiées, il suffit d'aller voir à quoi ressemblent les bleuets dans ces espaces de culture artificielle. Normalement, un bleuet, ça a une rangée de pétales. Alors bon, ce ne sont pas des pétales, ce sont des fleurs ligulées, mais bon, peu importe. On va dire pétales, ils ont une rangée de pétales et on a trouvé une tare génétique sur certains individus où il y avait deux, trois rangées de pétales. Et en les multipliant entre eux, on a fixé cette double, cette triple rangée de pétales. On a même trouvé des individus qui changeaient de couleur. Donc on a des bleuets qui sont roses, qui sont bleu foncé, qui sont violets, qui sont blancs. Bref, on en a toutes les couleurs en sachant que les pétales, qui sont les fleurs ligulées sur cette famille-là, chez les composés, ne sont pas faits pour faire joli, faire des bouquets de fleurs ou embellir la nature. Ils sont faits pour être vus par les insectes et ils sont faits pour servir de piste d'atterrissage aux insectes. Le problème, c'est que quand on force une plante à fabriquer de façon surnuméraire certains éléments, comme des pétales, au détriment, évidemment, d'autres parties qui vont être moins intéressantes en termes de qualité et de quantité, et notamment le nectar et le pollen, si et quand les pièces sont encore accessibles. Donc ces plantes sur lesquels on va multiplier le nombre de pétales, vont être vus par les insectes, vont attirer les insectes d'encore plus loin, qui vont chercher une nourriture qui n'existe pas, et donc ça va faire un effet piège et ça va finir par les tuer. Et là, on peut faire confiance à tous nos vendeurs de vraies, fausses, bonnes idées sur leur packaging tout à fait intéressant, où on trouve tout ce qu'il faut pour sauver les abeilles, les papillons, qui sont en fait ni plus ni moins que des plantes exotiques, des plantes modifiées, des plantes trafiquées par l'humanité, et qui ne remplissent pas ces fonctionnalités, mais encore une fois, qui vont servir de piège et qui vont tuer les insectes. Et ça, c'est valable sur les chrysanthèmes, sur les roses, sur les soucis, sur les œillets d'Inde, dont on a sélectionné des formes avec des multiples pétales. Par exemple, je vais prendre qu'un seul exemple, toutes les roses de la planète ont 5 pétales. Allez voir à quoi ressemblent les rosiers de compétition qu'on a fait. Donc évidemment, je ne suis pas en train de dire qu'il faut éliminer toutes les plantes cultivées, horticoles et les plantes esthétiques. Je dis juste qu'il faut laisser de la place au spontané à côté pour qu'on puisse fournir des réserves et des espaces de nourrissage dignes de ce nom au milieu des fleurs et de l'esthétique ou du décorum qu'on apprécie par ailleurs. Parce qu'on voit, par exemple, certaines plantes qui vont attirer des insectes et qui vont les piéger, comme par exemple les dipladenia qu'on plante dans nos jardins ou sur les balconnières. On voit certaines abeilles, comme les anthophores à pattes plumeuses, qui peuvent se coincer. La langue se retrouve coincée dans les pièces buccales et elle meurt pendue par la langue. Ou le morosphinx sur l'onagre rose, ou certains papillons de nuit, hein, petites noctuelles comme le lambda, qui peut se coincer dans la rogia porte-soie. Voilà, donc c'est pas la solution, elle n'est pas dans l'exubérance, dans les grosses fleurs, dans les fleurs qui viennent à l'autre bout du monde, mais au contraire, elle est dans les fleurs ultra communes. Les plantes les plus intéressantes pour les insectes sont les plantes les plus ubiquistes, les plantes qu'on trouve partout, c'est-à-dire le pissenlit, le trèfle blanc, la ronce, la vipérine, voilà des plantes qui sont extrêmement intéressantes et qu'on trouve de partout. Donc aider la nature, ça n'est pas réfléchir, aller acheter et mettre les mains dans la terre, mais c'est laisser des espaces en recolonisation spontanée. Dernier point sur la végétalisation que je voulais aborder, c'est l'omniprésence, au-delà des exotiques, des conifères.
Hugues, puisque tu parles de ces délires et de ces excès de plantes créées par nous pour ce que tu as appelé le décorum, qu'en est-il des conifères ? Il me semble qu'il y en a beaucoup trop. Des conifères, parle-nous un peu des arbres justement.
Alors ça, les arbres font partie des organismes majeurs en termes de régulation du climat, comme on l'a vu, d'évapotranspiration, d'ombrage, mais aussi de maintien de la faune, puisqu'il y a beaucoup d'animaux qui viennent se réfugier dans les forêts quand il fait trop chaud, quand il fait trop froid, quand il pleut, quand il grêle, ou bien pour déposer sa ponte, ou éventuellement trouver de la nourriture. Le problème, c'est que quand on a des arbres exotiques, ces fonctionnalités ne sont pas forcément remplies. Alors je parle des arbres exotiques en général, mais a fortiori, comme tu l'as évoqué, les conifères. Pour bien comprendre, en France, en plaine, la seule espèce de conifère indigène, c'est l'if. Tous les autres conifères sont exotiques. Alors évidemment, c'est pas vrai pour la montagne et le sud de la France où il y a d'autres conifères. Et donc, quand vous regardez ce qui se passe dans les villes, entre Lyon, Paris ou Lille, on va trouver tout un tas de thuyas, de cyprès, de cèdres, de sapins, de pins, bref, tout un tas de conifères qui sont très sympathiques, hein, qui sont tout à fait jolis. J'ai absolument rien contre les conifères, mais qui pourraient être tout à fait en petit nombre pour laisser de la place aux espèces indigènes qui, elles, vont remplir des vraies fonctionnalités. Les conifères plantés en masse vont acidifier le sol par les aiguilles qui vont tomber et absolument rien qui va pousser au bout de quelques années sous un gros cèdre. Donc c'est intéressant, mais ce n'est pas forcément les arbustes et les arbres les plus adaptés au secteur. Par contre, il manque une strate majeure en termes d'approvisionnement en fleurs, en fruits, en caches, en espaces de nidification pour les oiseaux ou pour les insectes, ce sont les arbustes. Et là, je vous invite à voir la majorité des jardins, la majorité des parcs urbains, la majorité des bords de route, la majorité des espaces agricoles ont été dépourvus de leurs arbustes. Et quand je dis arbustes, hein, quand on parlait des millions de kilomètres de haies qui ont disparu, c'est bien de ça dont on parle. C'est des troènes, c'est des aubépines, c'est des églantiers, c'est des viornes, c'est toutes ces arbustes qui vont fournir grosses quantités de fleurs, de grosses quantités de fruits et des espaces donc de nidification et de refuge. Donc voilà, si on veut aider la nature, c'est par ces biais-là, et c'est ce dont on va parler dans les prochains épisodes, quelle place je fais, qu'est-ce qu'on choisit, qu'est-ce qu'on laisse faire et comment on stratifie ou on agence l'espace de son jardin.
Cher Hugues, c'est comme dans un épisode de Goldorak. Tu vois, dans tous les épisodes de Goldorak, ça commence très mal, il y a des morts, il y a les Golgothes et les Antiraks qui arrivent et qui ravagent tout. Donc là, c'est ce qu'on a fait là, pendant ces premiers épisodes avec toi. Et là, maintenant, il y a le prince d'Euphore qui va justement monter dans le Goldorak et qui va nous indiquer quelles sont les bonnes habitudes qu'on peut prendre, tout ce qu'on peut faire pour remédier chacun d'entre nous à cette situation. Et on va voir, c'est des conseils très concrets que tu vas nous donner. Je te retrouve avec plaisir pour parler de ça bientôt. Prends soin de toi. Salut Hugues.
Eh bien, salut Marc.
Pendant notre combat, nous deux, tu avais l'œil du tigre. Tu en voulais ce soir-là. Il faut que tu retrouves ça maintenant. Et la seule façon, c'est de recommencer au commencement. Tu vois ce que je veux dire ?